Mais vous avez annoncé ce thème qui était sur mon cœur depuis quelques semaines, d'aborder la notion de l'autorité spirituelle. Alors voilà une expression qui n'est absolument pas biblique. Vous ne trouvez pas dans la Bible un passage qui parle d'autorité spirituelle, et pourtant dans notre jargon évangélique, c'est quand même une expression qui est utilisée. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela définit, qu'est-ce que veut dire cette expression, et surtout s'il y en a une. Mais il faut surtout, et moi le désir que j'ai dans mon cœur, c'est que nous puissions pleinement réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, racheté par grâce, appelé par lui-même enfant, nous avons une puissance. Nous avons une autorité. Nous avons une influence spirituelle. Et c'est très important que chacun d'entre nous, et j'ai même envie de dire, mais chacun individuellement, pour sa part, pour son identité, puisse réaliser qu'il a cette autorité. Il y a cette parabole de celui qu'on appelle le fils prodigue. Vous savez, cet enfant-là qui avait grandi chez son papa, il avait tout, il avait le travail, il était aimé, il avait ses frères, il avait certainement sa famille, il avait des ouvriers, il était dans un cadre de croissance, de bénédiction. Et puis, non, ailleurs, c'est certainement mieux. Ah, il y a forcément des problèmes au travail, à la maison, avec le papa qui comprend rien, et puis ceci. Je suis sûr que si je vais dehors avec ma part d'héritage, je vais m'éclater. Ça va être génial. Et il s'en va. Il s'aperçoit qu'ailleurs, c'est pire. Alors, il rentre. Et là, on voit qu'il y a un autre personnage. C'est le fils aîné. Celui qui est resté fidèle. Celui qui a travaillé. Celui qui n'a jamais pris de bon temps, celui qui n'a pas réalisé que toutes les richesses que le papa avait, c'était aussi pour lui. Et là, le père ne comprend pas pourquoi le fils aîné est en colère, pourquoi il est contrarié, pourquoi il est vexé, pourquoi est-ce qu'il est aigri au-dedans de lui. Il dit, moi aussi, je suis ton fils et moi, t'as jamais rien fait pour moi. Et là, le père dit, mais attends, comment ça j'ai rien fait pour toi? Et tu avais tout. Tu n'avais qu'à prendre. Tu n'avais qu'à tendre la main, tu n'avais qu'à demander. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Et nous pouvons être des hommes et des femmes de prière. Nous pouvons être fidèles à l'Église. Nous pouvons être généreux en parole, en pensée, en action. Nous pouvons être des super bien à tout niveau, avoir une bonne sainteté de vie, veiller sur nos relations. Et tout ça, il faut le faire. Hein. Mais si nous oublions, négligeons, que nous avons une autorité, une puissance, une influence spirituelle, nous allons passer à côté de quelque chose de magnifique pour nos âmes. Et même, il y aura des situations où nous serons comme dans des impasses. Parce que nous aurons dit, mais pourtant je prie, pourtant je vais à l'église, pourtant je fais tout ce qu'il faut, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. J'ai l'impression que je suis dans un blocage. J'ai l'impression que je suis toujours là, que j'avance plus dans ma vie spirituelle. Parce que si nous oublions que nous avons cette autorité, cette influence spirituelle, alors nous partons comme à la guerre, sans armes. Ah bon, j'avais droit à un fusil, moi aussi? Mais oui. Mais j'ai un policier. Costard, costume. Ouh, attendez, ah. Vous venez, bon ça arrive jamais, hein, mais imaginez de griller un feu rouge ou un sort. Imaginez, ça arrive, je sais que ça arrive pas ici, mais bon, un peu d'imagination. Ah, le policier vous arrête. Vous commencez à faire quoi au-dedans de votre cœur? Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien à cause du bonhomme ou à cause de l'autorité qu'il revêt? L'autorité. Parce que si c'est vous, le boulanger, qui vous dit « Ah, toi !» Vous allez dire « Oh, bah ouais, mince, ouais, t'as raison, je ferai attention. Hein. » Mais vous n'avez rien à craindre. Mais si c'est celui qui représente l'autorité que vous avez, vous, à côté, là. Là, vous savez qu'il n'y a même pas à discuter, il n'y a pas à rigoler. D'ailleurs, si vous commencez à rigoler, c'est encore pire pour vous. Et imaginez que le policier, bon, bah, je peux rien faire pour vous, hein, désolé, mais si j'étais policier avec l'autorité, hein, je vous arrêterais. Il dit, mais tu es policier. Mais si le gars, il ne réalise pas qu'il a pouvoir, alors même s'il a le costume, même si on lui a donné les insignes, même si on lui a donné l'autorité, s'il ne le saisit pas parce qu'il ne le réalise pas qu'il a le pouvoir de sanctionner celui qui fait une faute, alors il n'avancera pas. J'ai trouvé un passage en Marc chapitre 16 qui va nous permettre, vous pouvez ouvrir votre Bible en Marc chapitre 16, versets 14 à 20, on va dire ce passage-là, qui va être pour nous notre texte de référence, dans lequel nous allons régulièrement puiser pour développer la pensée sur cette notion de l'autorité en Jésus-Christ. J'ai fait exprès de commencer à partir du verset 14. Le verset 14, c'est Jésus qui apparaît aux disciples après après sa résurrection, après que les femmes aient constaté sa résurrection et l'ont dit aux disciples. Et là, j'ai voulu prendre la lecture à ce moment-là. Non pas parce que j'ai voulu la faire à ce moment-là, mais il me semble que ce texte-là importe sur la suite de ce que Jésus dira. Tout le monde y est ? Marc, chapitre 16, verset 14. Enfin, Jésus apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Les disciples, hein, ceux qui ont vécu 3 ans avec lui, ils en sont au niveau de l'incrédulité et de la dureté du cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux, notamment les femmes, qu'il avait vu ressusciter. Puis, l'étape d'après, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Amen.
Parce qu'il y a bien croire, c'est bien, tout le monde croit. La Bible nous dit même que même les démons croient. Mais là, il est en train de nous donner maintenant les repères. Ah bah bon, moi je crois, donc je suis sauvé, c'est bon. Mais il va plus loin. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là, il est important à chacun de dire, oh, est-ce que je suis dans le carcan? Est-ce que je remplis les cases? En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, après leur avoir dit cela, fut enlevé au ciel. Et il, Jésus, s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, les disciples s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur Jésus travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alors on va disséquer tout ce texte, pas ce matin évidemment. Mais vous allez voir que chacun de ces versets vaut évidemment son pesant d'or. Certains disent que les miracles, les prodiges, tout ça c'était pour avant. Certains vont dire que c'était juste pour le temps des apôtres, pour le temps au début. Bon, alors j'ai quelques questions à vous poser. Par exemple, le verset 15, le commandement du verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Est-ce que cela ne concerne que les 12?
Non.
On est d'accord? Sinon, on arrête d'annoncer l'évangile. Ok. Le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dites-moi, cette promesse du verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera... Est-ce que ça ne concernait que les 12?
Non.
Tout le monde? On est d'accord alors. Et donc, selon le verset 17, selon le sens du verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand il est parlé de ceux qui auront cru, est-ce qu'il parle aux 12? Non. Voilà, vous êtes 12, et parmi ces 12, celui qui croira, alors il fera ses miracles? Est-ce que c'est le sens du propos de Jésus?
Non.
Non. Donc, réalisons que quand le Seigneur nous promet que par sa grâce, nous pouvons faire des miracles. Permettez-moi tout de suite de dire des signes, des marques, mais on reviendra sur le sens de ce mot-là. Il ne parle pas aux 12 d'il y a 2000 ans. Il parle à tous ceux qui croient. Amen. À ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus et qui veulent aller plus loin avec lui. Alors, nous allons, au travers de cette série-là, étudier ce qu'est l'autorité spirituel. Nous allons voir, et ça va être surtout ce matin, qu'est-ce que l'on appelle autorité. Et autorité spirituelle, il est important de définir. Nous allons voir après, et c'est tout le développement qui va être intéressant là, à partir du verset 17, quels sont les domaines de notre autorité. Parce qu'on a autorité en toute chose, sur est-ce que Jésus a dit, voilà, vous êtes comme moi au ciel et tout ce que vous voulez, vous le faites. Intéressant de se poser la question. Et puis on va voir également, à la fin, les facteurs qui amoindrissent ou qui favorisent cette autorité spirituelle. Vous êtes d'accord pour le programme?
Oui.
Bon. Alors, avant, je voudrais quand même tout de suite me préserver d'aller en prison avant l'heure. Avant d'essayer les breuvages mortels et les serpents. Ah oui, les futurs baptisés, je vous préviens tout de suite. Ça va être les nouveaux tests à l'église, hein, pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi. Hein, il y aura un test avec des serpents venimeux, et puis une sorte de potion qu'on va faire à la maison, je ne vous donne pas la recette. Et donc vous prendrez ça, vous saisirez les serpents pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après, si ça ne vous fait rien, vous prendrez le poison. Et si vraiment, au bout de 24 heures, il ne vous arrive rien, on pourra vous baptiser, d'accord, hein, c'est biblique. C'est pour voir s'ils ont vraiment la foi. Hein.
Jésus est là.
Voilà, tu vois. Jésus est avec vous, mon frère. Pourquoi un petit ton d'humour? Parce que s'il vous plaît, ne faites pas d'exercice à la maison à dire ah, bah moi je suis la foi, je vais courir après les serpents. Regarde, maman. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Permettez d'abord qu'il y ait l'explication de ces passages-là. Après, vous ferez ce que vous voudrez, mais vous ne pourrez pas dire que c'est à cause de moi. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne faites pas de crash test avec ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'autorité spirituelle? Et d'avant, on va définir les différentes autorités qui sont définies dans la Bible. Alors, c'est vrai que ce thème-là est très intéressant, l'autorité de manière générale. Et on aura l'occasion, quelquefois, de faire quelques digressions. Il y aura certaines digressions qui seront carrément l'objet d'études bibliques les mercredis soirs pour ne pas nous entraîner trop loin le dimanche matin. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir de temps en temps s'amuser quand même à avoir un petit clin d'œil à gauche, à droite autour de l'autorité. Et on peut. La Bible parle de trois sortes d'autorités. Celle que j'ai appelée l'autorité humaine. L'autorité humaine ou relationnelle. Par exemple, on la trouve dans Romains 13. Quand Paul nous demande d'être soumis aux autorités. Donc là, il nous est parlé de tout ce qui est politique, civique, etc. Okay? Donc ça, c'est le premier niveau d'autorité humaine, mais un peu plus loin aussi. Il n'y a pas que ce type d'autorité, il n'y a pas que le policier dans la vie. Paul nous encourage à réaliser aussi l'autorité qu'il y a dans nos maisons. 1 Corinthiens 11, Paul rappelle que les femmes doivent porter, lorsqu'elles sont dans l'église en prière et qu'elles sont mariées, qu'elles doivent porter une marque de l'autorité dont elles dépendent. Et Éphésiens 5 nous rappelle que Christ et le chef de l'église, tel que dans la famille, le mari doit être le chef de son épouse. Cette notion d'autorité va jusqu'à la plus petite cellule relationnelle. Ah oui, on a besoin des autorités, on a besoin des maires, on a besoin de la police. D'accord. Mais on a aussi besoin d'autorité jusqu'à la plus petite cellule relationnelle. Et il est important aussi pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'accepter cette autorité dans nos vies. Et on en revient au même. Il y a besoin que les hommes prennent leur place d'autorité. Il y a besoin que les hommes reprennent ou prennent leur place d'autorité. Il y a besoin que les femmes apprennent à se soumettre à l'autorité du foyer. Si la femme ne respecte pas cette position, elle peut frustrer son mari. Et quand ça ne va pas, c'est là qu'elle demande au mari de prendre autorité, mais lui, il n'a pas l'habitude de prendre cette autorité. Alors il est perdu. Il y a crispation. Il est aussi important au quotidien que le mari sache prendre cette autorité, cette place de chef. Nous reviendrons, et la série sur la notion d'autorité va nous permettre aussi personnellement de réaliser, mais c'est en quoi mon autorité en tant que chef de famille. Il y a une autorité également dans l'Église. L'Église n'est pas vouée à elle-même, bien sûr. Qui est le chef de l'Église ?
Jésus-Christ.
Je n'ai pas bien entendu.
Jésus-Christ.
Encore une fois,
Jésus-Christ.
On est d'accord, c'est Jésus le chef de l'Église.
Amen.
Lui seul. Mais il a délégué. Christ est au ciel et il nous donne la responsabilité. On revient un peu à la notion de la responsabilité de l'autorité. Tout à l'heure, on va jouer un petit peu comme ça. Hein. Mais tout à l'heure, on parlait que on doit être soumis aux autorités. Et dans Romains 13, en plus, Paul va plus loin. Il nous dit même que c'est Dieu qui a établi les autorités, n'est-ce pas ? Les autorités politiques. Mais ça nous fait un peu mal au cœur de dire ça, parce qu'on dit, mais avec tout ce qu'ils font, comment est-ce que Dieu peut établir des... Mais il y a une différence entre l'autorité, qui est un pouvoir, et l'individu. Vous pouvez avoir un très bon policier qui fait très bien son travail, et un même qui fait mal son travail. Alors, à fur et à mesure, on va se détacher de l'idée du policier, parce qu'on a une référence trop punitive avec la notion du policier. Mais n'importe qui a un travail a une certaine autorité sur son travail. Il a des droits, il a des pouvoirs, il a une influence. Et vous pouvez avoir, par votre travail, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, beaucoup d'influence. Mais individuellement, vous êtes une pourriture. Mais vous avez quand même l'autorité, parce que cette autorité ne vient pas de vous. Cette autorité vous a été conférée par votre patron. Il en est exactement de même. Dieu est celui qui établit les autorités. Il donne aux uns et aux autres une position, un pouvoir, une situation. Mais c'est à chacun qui ils rendront compte de cette situation. C'est pour ça qu'il va falloir apprendre aussi à distinguer, on le reverra hein, cette notion-là, entre l'autorité qui nous a été donnée et qu'on ne mérite pas, qu'on ne recherche pas. On l'a, c'est tout. Vous êtes enfant de Dieu, alors vous avez cette autorité. C'est du acquis, ça fait partie du package comme la vie éternelle. Et la responsabilité que l'on a et dont on devra rendre compte. Et c'est pareil dans l'Église, il y a une autorité. Et je veux saisir l'occasion pour rappeler que ce verset qui est en Matthieu 16, qui est en Matthieu 18, qui a son parallèle en Jean 20, c'est ce verset qui dit « Tout ce que vous lirez en mon nom sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié dans le ciel. » Alors déjà, il y a une petite faute de traduction, parce que c'est un peu compliqué de le traduire en français tel que dans la forme grecque, mais si on devait le traduire dans le sens le plus explicite, c'est tout ce que vous aurez lié ou tout ce que vous aurez délié aura déjà été délié et aura déjà été lié. Il y a une sorte de ça a déjà été fait, il y a un présent et il y a un futur. Donc c'est pour ça que la plupart des traducteurs restent faux. Il peut aller chez les petits s'il veut, hein. Judith, s'il veut aller avec les petits, il peut, hein. Ça va pourquoi est-ce que ce texte, je veux m'arrêter un petit instant dessus. Parce que bien souvent, ceux qui parlent de l'autorité spirituelle vont vous parler de « je lis, je délis, je fais pas, le Seigneur est avec moi, parce que je dis, parce que j'ai l'autorité au nom de Jésus de lier et de délier. » Tout ça, c'est hors contexte. Parce que ce passage qui nous parle de lier et de délier, qui est repris en Jean, qui est par rapport au pardon, c'est lié à la discipline dans l'Église. Dans l'Église. Donc ne croyons pas, et on verra ça encore dans quelques secondes, qu'on a tout pouvoir tel que Dieu a, je fais ce que je veux parce que tout ce que je dis, c'est le Seigneur qui va le faire. C'est presque un peu dangereux, hein? Qui est Dieu? Vous ou Dieu? Ok? Donc Dieu n'est pas notre botte, il n'est pas notre solde, pardonnez-moi. La deuxième autorité qui est définie dans la Bible, c'est ce que Paul appelle les autorités avec un S. On retrouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24, Colossiens chapitre 2 verset 15, ce magnifique passage qui dit que Christ à la croix a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées en spectacle. Elles sont tannées entières. Amen. Donc là, quand il nous est parlé de ces autorités-là, ce sont les autorités occultes, les démons, les mauvais esprits. Mais elles sont qualifiées d'autorité. Pourquoi? Je sais que je suis peut-être un peu lourd, mais c'est pour que cette notion d'autorité soit bien perçue. Parce que ces autorités spirituelles ont un pouvoir. Elles ont une influence. Si on les néglige, il y aura encore plein de situations dans notre vie où on sera là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des autorités spirituelles. Lorsque Jésus discutait avant d'aborder ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'il a commencé à vouloir reprocher à ses disciples leur incrédulité? Parce que pour bien rentrer dans la notion d'autorité, il faut avoir une vision spirituelle des choses. Il va falloir commencer à comprendre qu'il y a une réalité qui est au-delà de ce que l'on peut toucher, sentir ou même ressentir d'un point de vue humain. Il faut que le cœur commence à s'assouplir. Il faut que le cœur commence à accepter une sorte d'élasticité parce qu'on va aborder des sujets qui vont nous déstabiliser si on n'est que rationnel. Il va falloir que dans notre vie spirituelle, il y ait une vision qui soit au-delà de ce que l'on peut même comprendre avec notre intelligence. Il y a des autorités qui sont d'ordre spirituel. Tant que nous sommes dans notre chair, on ne les comprend pas, mille excuses. Hein. On comprend les principes, mais elles nous dépassent. Parce qu'elles sont capables de faire, d'influencer. Ça nous dépasse. De toute façon, l'essentiel, ce n'est pas de les comprendre. L'essentiel, c'est d'être dans l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Et ça, on verra ça après. Et donc, le troisième point, effectivement, c'est ce qu'on pourrait appeler, mais qui n'est pas défini comme ça dans la Bible, l'autorité spirituelle. Alors, je le redis, hein, cette expression n'y est pas dans la Bible, mais il y a beaucoup d'expressions, de situations qui nous font comprendre qu'effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un pouvoir, nous avons une autorité, pour la simple et bonne raison. Qu'à la fin du passage que nous avons lu, verset 19, il est dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé, où ça ? Et il est installé, où ?
À la droite de Dieu. »
La droite de Dieu, c'est une expression, elle est souvent répétée, qui signifie, la droite de quelqu'un, c'est l'autorité de cette personne, ok ? Dieu est invisible, donc être à la droite de quelque chose d'invisible, c'est un peu compliqué. Mais cette expression signifie que quand Christ est retourné au ciel, il a reçu toute autorité du Père créateur du ciel et de la terre. Enfin, je ne sais pas quelle expression, mais s'il y a une autorité au-dessus de toutes les autorités, c'est Dieu. Il n'y a pas un grain de poussière de cette salle que Dieu ne connaisse pas. Il n'y a pas un cheveu de notre tête qui ne tombe sans que lui ne soit pas au courant. Il sait toute chose. Il dit la chose existe. Même si elle n'existe pas encore, il n'a qu'à la prononcer pour que celle-ci existe. Je ne sais même pas si on arrive à concevoir la dimension de l'autorité de Dieu. Et il nous est dit que notre Seigneur a reçu cette autorité. Il le dira lui-même. J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors dit, c'est super. Et Paul nous rappelle en Éphésiens que nous sommes tous ensemble assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Nous sommes spirituellement installés avec lui. Où ça? Avec lui à la droite de Dieu. C'est-à-dire que l'autorité que Jésus a, qui est la plus ultime, nous nous sommes tranquillement assis avec lui. Oh! Est-ce qu'on est en train déjà un peu de mesurer la dimension de l'autorité que nous avons? Et rien que la conscience de ce pouvoir que Dieu nous a donné doit nous stimuler dans notre manière de prier, d'intercéder, de vivre notre foi chrétienne, de considérer la parole que nous avons sous les yeux. On parle souvent de foi. Oui, oui, je crois. Mais c'est plus que ça. Il faut que je réalise que celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, mais je suis plus que son meilleur ami. Je suis ouvrier avec lui. Amen. Et on disait tout à l'heure que n'importe qui d'entre nous qui avons un boulot, notre patron nous donne du pouvoir, n'est-ce pas? Nous sommes les ouvriers de celui qui a les pouvoirs les plus puissants. Amen. Nous avons une autorité spirituelle. Qu'est-ce que n'est pas l'autorité spirituelle? Merci. Elle n'est pas toute puissance. Dieu est Dieu. Oui. Comme il est dit dans un psaume, « Oh, que les hommes se rappellent qu'ils ne sont que des hommes. » Et c'est souvent dans quelques milieux évangéliques qui cherchent beaucoup le charisme, un défaut. « Je suis le fils de Dieu, je fais ce que je veux. » En gros, c'est ça, ils disent pas ça comme ça, mais... Non, nous ne faisons pas tout ce que nous voulons et nous devons rester soumis au Seigneur. Oui, c'est vrai, le Seigneur nous confère une autorité, mais vous allez le voir qu'elle est cadrée, cette autorité. N'importe qui a aujourd'hui un emploi, une responsabilité, ces responsabilités sont limitées. Et elles ne sont même pas concédées pour faire n'importe quoi et encore moins ce que vous voudriez. Elles vous sont données afin de bien remplir votre job. Amen. Le Seigneur nous a donné une autorité, un pouvoir, non pas pour faire ce qu'on veut, mais pour remplir une mission. Jésus lui-même, quand il était incarné, qu'il a accepté de s'humilier lui-même au rang de serviteur, lui-même, le Fils de Dieu, dira « Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me demande de faire. » Alors ne croyons pas qu'on va être meilleur que lui. Nous avons une autorité spirituelle, mais elle n'est pas une toute-puissance. Et nous devons toujours être dans la dépendance du Seigneur Jésus. Et ça, c'est très important de rester dans notre dimension d'humilité. L'autorité n'est absolument pas autoritarisme. Ça aussi, c'est un défaut. Sous prétexte que je suis fils de Dieu, que je suis sûr de moi, alors... Gare à celui qui n'est pas d'accord avec moi. Et la parole de Dieu devient soit coup de bâton, soit cravache, soit une sorte de positionnement personnel. C'est comme ça, hein? Bon. Il n'y a pas de souplesse. L'autoritarisme est à l'opposé de la pensée du Seigneur Jésus. Dites-moi ce que Dieu lui-même vous a une fois contraint de faire. Dieu ne nous contraint à rien. Vous êtes libre d'aller pécher. Vous êtes libre de faire n'importe quoi. Vous n'aurez jamais un ange du Seigneur qui va dire bah, stop, t'as pas le droit. Toi, tu fais ça. Et toi, t'as intérêt. Parce que sinon, j'envoie la foudre du ciel. Non. Peut-être que certains hommes parlent comme ça. Peut-être que ça peut rassurer. Mais ce n'est pas la pédagogie de Dieu. Il n'y a pas d'autoritarisme en Dieu. Rappelez-vous de Jésus. Et ça m'a toujours étonné. C'est ce qui m'étonne le plus dans la personne de Jésus. Ce n'est pas sa divinité, ce n'est pas ses miracles, ses prodiges. Bah, s'il est Dieu, c'est presque normal. Mais ce qui m'étonne le plus, ce qui me dépasse, C'est que le Fils de Dieu, étant sur terre, faisant malgré tout des miracles et des prodiges, ressuscitant des morts, asséchant la lèpre en quelques secondes, redonnant la vue, redonnant l'ouïe instantanément à des centaines de personnes, malgré tout ça, lorsque les gens étaient au contact de Jésus, ils avaient du mal à voir en lui sa divinité. Pourquoi ? Parce qu'il était tellement homme, tellement doux, tellement humble. D'ailleurs, il le dit, je suis doux et humble de cœur. Il n'y a pas un seul instant, un moment, quelqu'un s'est dit, non, t'en fous tellement plein la vue que c'est forcément toi, Dieu. Non ! S'il y avait quelqu'un qui pouvait utiliser d'autoritarisme, ce serait bien lui, non ? Franchement, il aurait pu. Il n'avait qu'à claquer les doigts, changer un peu sa manière de parler, et le monde entier était à ses genoux. Il était doux, humble de cœur. Et est-ce qu'il manquait d'autorité pour autant ? Eh non ! Au contraire, les gens étaient stupéfaits. Personne n'a parlé comme lui. Personne. Il y avait là cet équilibre parfait entre la douceur et l'assurance, entre l'humilité et la vérité. C'est ça l'autorité. C'est être capable d'être nous-mêmes dans notre humilité, dans notre douceur, dans notre même notre petitesse humaine que nous sommes. Mais notre autorité, on l'a parce que nous développerons cette assurance que nous avons d'être enfants de Dieu et d'avoir la vérité qui est inscrite dans sa parole. Et c'est ça l'équilibre que nous devons avoir. Nous n'avons pas à imposer nos points de vue. On n'a pas à parler aux gens de manière présomptueuse, leur faisant comprendre qu'eux, ils n'ont rien compris. Moi, je sais, j'ai l'autorité. Wow, stop! Là, tu es de l'autre côté de la ligne. Au contraire. C'est presque les gens qui devraient réaliser le trésor en nous. Mais nous, ne jamais l'imposer. Parce qu'on est tous pareils. Lorsqu'on nous impose quelque chose, est-ce qu'on l'accepte ? Quand on cherche à nous imposer quelque chose, notre cœur se ferme, n'est-ce pas ? Parce que quelqu'un veut s'imposer à nous avec une sorte de présomption, de supériorité. La première des choses qu'on envisage, c'est qu'on fait un petit sourire avec le... Hein, ouais. Mais on se ferme intérieurement. L'autorité que Dieu nous donne n'est jamais autoritarisme. Le seul moment où on verrait une situation où Jésus a utilisé d'autoritarisme, c'est-à-dire qu'il a forcé quelque chose, c'est lorsque Jésus faisait taire les démons. Oui. Le seul moment. Il ne laissait pas les démons parler. Taisez-vous, sortez. Il n'y a qu'un seul dialogue avec un démon. Mais sinon, partout ailleurs, il ferme la bouche. Taisez-vous, arrière, résistez. Et il fait chasser l'influence démoniaque. C'est le seul cadre. Avec tous les autres, il préfère même garder le silence que de chercher à se justifier. L'autorité n'est pas non plus caprice. Je fais ce que je veux, je veux ci, je veux ça, au nom de Jésus. Oh, nom de Jésus, c'est pas une tirette. Il n'y a pas de caprice à avoir avec le Seigneur Jésus. L'autorité que Dieu nous confère, c'est pas pour remplir nos envies. C'est pas pour satisfaire notre bien-être. C'est pas pour que les gens nous écoutent et qu'on soit reconnu comme meilleur. Stop, là aussi. L'autorité que Dieu nous donne n'est pas une sorte de caprice. L'autorité que Dieu nous donne, c'est pour... Je fais exprès de maintenir, je l'ai déjà dit une fois, mais... pour servir le Seigneur. L'autorité que Dieu nous donne, c'est pas pour nous glorifier. C'est pas pour dire, regardez, t'as vu comme je suis fort, t'as vu comme je suis spirituel. C'est uniquement dans l'optique que le royaume de Dieu avance. Amen. Amen. Si je vais prier pour un malade, si je vais prier pour la délivrance de quelqu'un, c'est pas pour que cette personne dise, oh, c'est lui qui a pris, il est tellement fort, lui. Oh. Non. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Pour délivrer les captifs. Pour que le royaume de Dieu amène les hommes et les femmes à la repentance et à la vie éternelle. L'autorité spirituelle, ce sera le dernier point, n'est pas une attestation d'approbation divine. On a un exemple en Matthieu, chapitre 7. Vous connaissez ce passage ? C'est lorsque ces gens ont dit « Oh, mais n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Pas mal déjà. « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?» Ah, ça, c'est... Ça fait partie de la liste en plus, hein. « N'avons-nous pas fait, et vous le lirez, ils disent, beaucoup de miracles par ton nom ?» Il y a de quoi se sentir en confiance. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, ce qui n'est pas juste. » Et ça, on en revient à la notion de tout à l'heure. Lorsque je vous disais que Dieu nous donne une autorité, mais nous sommes responsables de cette autorité. Et Dieu ne jugera pas ce que nous faisons au travers de cette autorité, parce que qui l'a fait en fait ? Qui fait les miracles ?
Dieu.
Qui fait les guérisons ?
Dieu.
Qui fait les prodiges ?
Dieu.
C'est Dieu, on n'est qu'un instrument. Et à côté de ça, on peut avoir pleinement conscience de l'autorité que l'on peut avoir dans les choses spirituelles, mais avoir une vie spirituelle qui est qualifiée d'injuste. Et c'est pourquoi ces gens, ils se glorifiaient. Regarde comme on a compris nos autorités spirituelles, les démons, ils déguerpillent. Les miracles, oh, les comptes même plus tellement il y en a. Et les guérisons, oh là 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 là, toute la pub qu'on t'a fait avec la guérison. Ah, t'es fier de nous ? Excusez-moi, mais je vous ai jamais connu. Comment ça ? Mais on a fait tout ça par ton nom. Oui, peut-être par mon nom. Mais votre vie, votre responsabilité, votre manière d'être, vos attitudes, vos motifs, vos mobiles. Moi, j'étais jamais dans vos coups. Je n'étais pas dans ça. Je n'ai jamais été dans vos coups. Oui, vous aviez une autorité, vous l'avez très bien utilisée. Mais je n'étais pas d'accord avec vos principes. Il y a quelque temps, là. Bon, pauvre gars, c'est un très haut placé de la police, je ne sais plus trop quoi. Et me notez. Parce qu'on s'est aperçu que dans ses manières de faire, il y avait des arnaques. Bref, apparemment, c'est plutôt fréquent. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, on est vraiment dans une situation embarrassante. Parce qu'on lui a toujours donné. Parce qu'il avait une situation très élevée dans la police. Presque tout pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait. Il rachetait de la dope, il en revendait. Ça lui permettait de rentrer en contact avec d'autres dealers, etc. Donc, en fait, il avait des pratiques de... Comment on dit
De ripou,
merci. Il avait des techniques de répoux, mais comme il avait toute autorité jusqu'à maintenant, on le laissait faire. Et puis au bout d'un moment, on a cherché à se donner bonne conscience, et lui, on l'a épinglé. Et là, on l'a épinglé par rapport à lui-même, à son identité, à sa personne. T'aurais pas dû, tu sais. Mais attends, on en a toujours fait comme ça. Et c'est pareil, nous devons faire attention. Ce qui va nous sauver, ce n'est pas les miracles, les prodiges et l'autorité. Ce qui va nous sauver, c'est notre marche sincère avec le Seigneur Jésus. Celui qui vit... Celui qui ne marche pas dans la sanctification ne sera pas sauvé. Celui qui n'a pas une relation avec Dieu ne sera pas sauvé. Celui qui ne cherche pas à plaire à Dieu ne connaîtra pas une éternité avec lui. Celui qui ne cherche pas sa face, on ne va pas lui imposer une éternité. Ce que nous devons rechercher premièrement, c'est cette relation, cette intimité. Et prendre conscience que nous avons en plus une autorité spirituelle pour aller plus loin. Amen.
Amen.
Allez, on fait le troisième point. Qu'est-ce que l'autorité spirituelle ? Je vais pas forcément trouver une définition précise et exacte, mais comprenons que l'autorité que Dieu nous donne, c'est une force d'influence. Voilà. L'autorité ne vient pas de nous. Ce n'est pas notre personnalité, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre manière d'être. Nous pouvons être remplis de l'autorité et être le plus timide du monde. Et vous pouvez être le gars le plus intelligent, qui prie le meilleur, qui connaît toute la Bible, qui en met plein la vue à tout le monde, et être dénué d'autorité spirituelle. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'autorité spirituelle, c'est une force qui permet d'influencer notre âme. Et c'est ce que nous allons détailler à fur et à mesure. Parce que c'est vrai que quand on parle d'autorité spirituelle, on pense beaucoup aux miracles, aux guérisons, mais nous allons voir que l'autorité spirituelle que Dieu nous donne, elle est également, et j'ai même envie de dire surtout, intérieurement. Parce que les plus grands combats sont bien souvent dans nos propres cœurs. Les plus grandes luttes, les plus grandes interrogations, les plus grandes murailles sont souvent dans notre propre existence. On prie pour que tel ou tel soit guéri, amen, mais en même temps dans notre vie, on se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que là, il y a comme ce mur qui est devant moi et qui ne tombe pas? Et nous allons voir qu'au travers de ces breuvages mortels et de ces serpents, ce n'est pas vraiment le serpent, ce n'est pas seulement le breuvage, mais c'est une réalité spirituelle qui peut nous atteindre et sur laquelle nous devons prendre autorité et nous pouvons, par la grâce de Dieu, vivre cette force d'influence. Un verset que plusieurs connaissent, Deutéronome, verset 28, verset 13, la référence ne vous dit rien comme ça, mais c'est ce passage-là qui dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. » Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Tu seras la tête et non la queue. Ça ne veut pas dire qu'on sera meilleur que les autres. C'est pas ça. Rappelons-nous la notion de tête. Où est-ce qu'on la retrouve? Christ qui est la tête. Cette notion de tête qui est la notion de chef, qu'on retrouve également dans la relation de famille. Vous serez la tête, vous serez le chef, vous serez l'autorité. Et vous ne serez pas la queue, vous ne serez pas derrière, vous ne serez pas là dans une situation où vous allez de suiveur. Quand il nous est dit là, vous serez la tête, ça ne veut pas dire qu'on va être toujours devant, qu'on sera au-dessus des autres, qu'on sera tous des présidents de la République, tous des chefs d'entreprise. Non, c'est pas ça. Mais ça veut dire que dans notre existence, nous serons les conducteurs de notre vie. Nous n'allons pas subir, nous n'allons pas être à la traîne, mais nous allons prendre notre vie en main. Nous serons maîtres de notre vie, maîtres de nos pensées, maîtres de nos sentiments, maîtres des temps et des circonstances, parce que nous serons associés avec Dieu pour comprendre les choses, et pas la queue qui voit rien, qui va à gauche parce que la tête a décidé d'aller à gauche, ou à droite parce que la tête aura décidé d'aller à droite. Nous ne serons pas dans une position d'aliénation, mais nous serons dans une direction de visibilité, de direction, d'orientation. Et combien de chrétiens vivent leur vie chrétienne un peu à la traîne? Quand les sentiments vont bien, tout va bien. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, on lâche, on déprime, ça ne va plus. Et là, on est la queue. On est dans les larmes. On est abattu. Tu seras, et c'est la suite du verset, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours au top. Mais on aura toujours de l'espoir. On sera toujours relevé. Proverbe, chapitre 24, verset 16. Sept fois le juste tombe et il se relève toujours. Amen. Tu seras en haut. Les hommes du monde peuvent tomber en bas, certains se fracassent, certains restent en bas, mais toi, enfant de Dieu, parce que tu réalises l'autorité que tu as en Christ, je serai en haut. Et même si je suis en bas, je proclame que l'autorité que Dieu me donne permettra que demain je sois en haut. Amen. Et c'est ça l'autorité. Tu seras la tête, tu ne subiras pas ta vie, mais tu seras acteur de ta vie. Tu ne seras pas là le sous-fifre de tes pensées, de tes émotions, mais tu prendras une autorité sur tes pensées, sur tes motivations, sur tes émotions, et tu avanceras. Parce que le Seigneur a prévu un chemin pour toi, un avenir, non? Une espérance, non? Et c'est ça être la tête. C'est prendre conscience que l'on marche devant, qu'on prend conscience de là où on va, et que le Seigneur nous en donne cette autorité. C'est exactement la même pensée dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. C'est Paul qui disait: je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Paul, dans cette autorité spirituelle, va dire: je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui m'avilisse. Je ne veux pas devenir esclave de quelque chose, mais je veux être libre. Je veux avoir cette liberté, cette autorité sur les choses. Je ne veux que dans ma vie, rien ne m'emprisonne. Je veux pas être attaché à quelque chose. Je veux pas devenir un boulet accroché à un arbre ou quoi que ce soit. Je veux pas que je sois prisonnier d'une situation. Je veux cette autorité. Je vais grandir dans cette autorité. Non pas parce que je vais le décider, mais parce que le Seigneur nous l'a donné. Amen. Parce que c'est le projet de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons la tête et non la queue. Parce que Dieu nous a établis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que je veux dire stop au tabac. Parce que je veux dire stop à la dépression. Parce que je veux dire stop à tout ce qui m'entraîne vers le bas. J'en ai marre de rester là où j'en suis. Ça fait combien d'années que vous êtes au Seigneur ? Ça fait combien d'années que vous patinez ? Au début de notre conversion. On fuse, non ? Parce que nous ne sommes pas dans la situation des premiers disciples, hein, où Jésus leur reprochait l'incrédulité et la dureté du cœur. Pourtant, on pourrait se dire, mais avec 3 ans, avec Jésus, mais ils doivent avoir un cœur comme ça, ils ont dû avoir un élargissement spirituel, mais comme ça. Et pas du tout. Pas du tout. Et on pourrait se dire, avec certains chrétiens, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans de conversion. Punaise, les mecs, ils doivent être comme ça, ils doivent arriver à la perfection, non ? Ça doit être le sens des choses, n'est-ce pas ? Puis on va voir que le diable, sous forme de serpent, arrive à s'immiscer dans nos vies, à nous enrouler, à nous anesthésier. Et malgré le nombre des années, il y a encore des écueils, des duretés de cœur, de l'incrédulité. On ne progresse pas. On est comme sclérosé. Comme si une sorte de poison nous avait engourdi tout le corps, tout le cœur, tout l'âme. Nous devons saisir l'autorité spirituelle afin de mettre un point final à tout ce qui peut nous paralyser. Et que nous arrêtions d'être la queue de la queue, mais que nous soyons à la tête avec Jésus-Christ. Amen.